Le voilà, le déroulant. Et donc, ce sommet de Bruxelles qui s'est prolongé ces dernières heures et toujours pas de fumée blanche dans les négociations sur les plus hauts postes en Europe. On reprendra demain pour la Commission européenne. Le socialiste néerlandais Frans Timmermans tient à nouveau la corde. L'Union européenne qui a bouclé une autre négociation vendredi, celle de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Droits de douane en baisse, les industriels européens y gagnent, les agriculteurs ont l'impression d'être les dindons de la farce. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, est notre invitée. Elle rencontre demain le ministre de l'Agriculture. Avec elle aussi, bilan d'une semaine de canicule, le secteur qui a le plus souffert est celui de la viticulture, cellule de crise réunie ce matin dans l'Hérault. La canicule, justement, quel bilan une semaine après les premières alertes? Nous verrons cela avec Mathilde Dehimy. Cet épisode marque beaucoup de premières. Le report du brevet, les alertes rouges, la circulation différenciée dans plusieurs villes et les records de température. Mais globalement, à ce stade, pas les drames redoutés. Cela dit, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
La canicule résiste dans le sud-est et gare aux orages.
Oui, surtout, les orages vont se développer cet après-midi entre le Massif central et la région Rhône-Alpes, en remontant vers la Bourgogne, la Franche-Comté et le sud de l'Alsace. Et attention, ces orages seront parfois violents avec de fortes précipitations, des rafales de vent et des chutes de grêle. En Aquitaine et Midi-Pyrénées, le ciel sera couvert et partout ailleurs, l'après-midi sera souvent très bien ensoleillé.
À propos du brevet qui a donc été reporté à cause de la canicule, il a eu lieu ce matin. L'épreuve de français, au menu une photo de Douaneau et un texte de Camus autour des jeux de l'enfance et cette question que nous apporte la découverte de personnages dans les livres ou les films. Avant tout cela, dans un instant, le portrait et le parcours d'un homme qui vient de passer près d'un demi-siècle en prison. Casanova Agamemnon était le plus ancien détenu de France. Il vient de sortir. Dans ce journal encore, les associations inquiètent face à un projet du gouvernement. Le SAMU social devrait donner les noms des réfugiés et demandeurs d'asile au sein du réseau. Le débat sur la PMA, la crise des vocations, les affaires de pédophilie. Monseigneur de Moulin-Beaufort prend la tête de la conférence des évêques de France dans un contexte tendu. Il a pour lui sa relative jeunesse. La mort du dessinateur Mordillo, nous lui rendrons hommage. Et puis en sport, c'est le début du tournoi de tennis de Wimbledon. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
C'était il y a quelques heures sur la chaîne de télévision Réunion Première. Une voiture, à son bord un homme costaud, chauve, en polo bleu. Il est à la place du passager, il vient de sortir de prison après 48 ans derrière les barreaux. Il était le plus ancien détenu de France.
Content de retrouver la liberté, mais c'est tout. Enfin, je quitte quand même cette merde-là pour parler franchement. Je sais qu'il faut respecter toutes les interdictions. Et je sais que je suis en bracelet, donc la moindre erreur, il y a la révocation directe derrière, quoi, pour recommencer à zéro. Donc je ne veux prendre quand même pas ce risque-là.
Voilà, son nom aussi sort du commun. Il s'appelle Casanova Agamemnon. Il a 69 ans. Il avait une petite vingtaine, Sophie Parmentier, au moment de son incarcération.
Oui, sa première condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité date de 1970. Et Casanova Agamemnon, yeux bleus, large carrure, n'a alors que 20 ans. En effet, à Saint-Denis de la Réunion, des jurés d'assises le déclarent coupable d'avoir tué un an plus tôt son patron pour une affaire de salaire non versé. À l'époque, la société était encore coloniale. Il était l'employé noir qui avait tué le patron blanc et avait écopé de la perpétuité, analyse une documentariste qui a longuement rencontré ce détenu emblématique qui aura donc passé près d'un demi-siècle derrière des barreaux, détention record. Casanova Agamemnon avait pourtant été libéré une première fois au bout de 15 ans en 1985, mais l'année suivante, il avait tiré sur sa compagne lors d'une dispute et tué son propre frère à qui il reprochait de s'être approprié l'héritage familial. Juste après, Casanova Agamemnon s'était enfui. Une longue cavale de plusieurs mois. Il était l'ennemi public numéro un. Une cavale lors de laquelle il avait menacé de mort le procureur de la République. Il avait fini par être arrêté et retourné en prison. Le voilà désormais en liberté conditionnelle avec un bracelet électronique. C'est sa nouvelle épouse, une petite cousine, qui est venue le chercher à la sortie de la cellule. Elle s'est engagée à le faire travailler bénévolement dans son restaurant.
La controverse est loin d'être éteinte après l'intervention des forces de l'ordre vendredi sur le pont de Sully à Paris. Au sein même de la majorité, la députée de sensibilité écologiste Barbara Pompili se dit choquée. Des militants écolos en mode « bloquons la circulation » pour inciter à agir contre le dérèglement climatique. De très grosses manifs avec ce mode d'action ont eu lieu au printemps à Londres. Vendredi, ils étaient donc assis sur le pont de Sully et les forces de l'ordre ont abondamment aspergé les militants de gaz lacrymo tout près des yeux. Un rapport est demandé au préfet de police. Décidément, l'Union européenne a du mal à trouver ses repères dans le nouveau monde. Les négociations négociations pour le renouvellement des postes les plus prestigieux après les élections européennes du printemps sont très très laborieuse. Il faut une parité homme-femme, il faut tenir compte du déclin relatif des grands partis conservateurs et sociaux-démocrates et des dissensions entre les gouvernements dits populistes et les autres. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Angélique, d'habitude lors des sommets européens tendus, les négociations s'achèvent au petit matin. Là, il est 13h, vous guettez, vous ne voyez toujours rien venir de définitif, c'est même reporté jusqu'à demain matin ce sommet.
Oui, on imagine qu'après près de 20 heures de négociations, les dirigeants européens sont épuisés, mais pas question pour autant de renvoyer au 15 juillet prochain leur décision sur certains possibles mercato, comme certains diplomates le laissaient entendre au petit matin. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande auraient, selon plusieurs sources, beaucoup insisté pour que ce sommet soit conclusif. Il est donc suspendu, on l'a appris il y a quelques minutes. Les 28 chefs d'État et de gouvernement ont décidé de revenir ici demain à 11h. En début de matinée, il semblait pourtant se dessiner un compromis autour de la candidature de Frans Timmermans pour la présidence de la Commission européenne, même si ce compromis était qualifié de volatile par un diplomate. Le chef de file des socialistes européens, déjà pressenti sur ce poste clé, avait subi hier après-midi un tir de barrage en règle de la part d'une bonne partie des dirigeants de la droite européenne, mais ces derniers avaient obtenu, disait-on, d'autres postes clés convoités, dont celui de la présidence du Conseil. Tout cela néanmoins est loin d'être finalisé, on vient de le comprendre avec cette suspension. C'est un échec pour les dirigeants européens qui espèrent néanmoins qu'une solution sera trouvée demain.
Et Emmanuel Macron, costume sombre et cravate assortie, s'est présenté devant les journalistes à Bruxelles.
Il est clair que cet échec est lié donc aux divisions que j'évoquais, parfois à des ambitions personnelles qui, à mes yeux, n'avaient pas lieu d'être autour de la table. Et donc il faudra résoudre d'ici demain, mais sans doute aussi au fait que tout ce processus a été mal pensé avec l'ambiguïté, comme j'ai eu l'occasion de le dire, des Spitzenkandidaten. Et au fond, une lecture qui peut être ambiguë, où à la fois les chefs d'État et de gouvernement sont là pour représenter leur pays, mais se sentent captifs d'intérêts politiques ou de contraintes politiques, ce qui n'est pas l'esprit de notre État.
Nous avons été un moment très proche d'un accord, dit encore Emmanuel Macron. Il faut être flexible. Timmermans, dit encore le président français, fait partie des personnes pouvant avoir un poste de haut niveau. Parmi les autres réactions, celle d'Angela Merkel, elle espère qu'un compromis sera faisable. Sous-entendu, ce n'est vraiment pas gagné. Dans un tout autre domaine, l'Union européenne est parvenue à un accord vendredi. Accord de libre-échange avec le Mercosur, la zone d'Amérique du Sud qui regroupe Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay. Les partisans du libre-échange applaudissent. À l'heure où l'Amérique de Trump relève les droits de douane un peu partout, cet accord crée la plus vaste zone de libre-échange au monde. 770 millions de personnes sont concernées. Les droits de douane vont baisser sur 90% des échanges entre les deux régions. Les industriels européens se frottent les mains. Industrie automobile, pharmaceutique, textile. Les agriculteurs, en revanche, font entendre leur colère. On en parle avec l'invité du journal de 13h aujourd'hui. Bonjour Christiane Lambert.
Bonjour.
Présidente de la FNSEA, premier syndicat agricole français. Alors les produits agricoles sont concernés par cet accord de libre-échange, la viande bovine en particulier. Pourquoi parlez-vous de concurrence déloyale ?
Nous parlons de concurrence déloyale parce que les conditions d'élevage sont tout à fait différentes de part et d'autre de l'Atlantique. En France, en Europe, nous avons des conditions sanitaires, de bien-être animal, d'alimentation, d'antibiotiques qui sont très encadrées et contrôlées, qui sont haut de gamme suite à la demande des consommateurs. C'est totalement différent aujourd'hui au Brésil, en Argentine, Uruguay, Paraguay. Pourquoi ? Par exemple, les antibiotiques sont utilisés comme hormones de croissance. Par exemple, depuis son arrivée au pouvoir, le président brésilien a réautorisé 121 produits phytosanitaires pour traiter les cultures qui étaient auparavant interdit. Et parmi eux, 80% ne sont pas autorisés en Europe. Donc, voyez, on ne joue pas du tout dans la même cour. Donc, c'est tromper les consommateurs et c'est tromper les producteurs.
Quand l'Union européenne dit pour compenser cela, il y aura des systèmes de quotas, il y aura des aides financières jusqu'à 1 milliard d'euros, ça ne suffit pas, Madame Lambert ?
On sait tous que les aides de compensation ne compensent jamais la totalité de la perte. Promettre 1 milliard, comme l'a fait le commissaire européen en charge de l'agriculture vendredi, c'est reconnaître qu'il y aura deux fois, trois fois plus de pertes chez les éleveurs. Promettre des contrôles, c'est ne pas connaître l'administration sanitaire de l'Amérique du Sud. On a tous en tête les scandales sanitaires qui ont eu lieu, au Brésil notamment, avec de la triche et des magouilles, des contrôles non réalisés sur la viande. Donc aucune confiance sur la capacité à contrôler.
Alors pour l'instant, l'accord il a été signé entre les deux grandes régions. Il faut l'accord de chaque pays européen, il faut l'accord du Parlement européen. Est-ce que vous avez pu en discuter avec des interlocuteurs au gouvernement ?
C'est le président de la République qui s'exprimera au Conseil. J'ai donc demandé sans délai avec les jeunes agriculteurs Samuel Vandal rendez-vous au président de la République et je rencontre dès demain matin à 8h30 le ministre de l'Agriculture pour faire le point. Il y a 8 jours à l'Assemblée nationale, répondant à des députés inquiets parce que nous les avions alertés, il disait jamais nous ne signerons, c'est pas possible de signer un accord comme celui-ci, les conditions de production sont totalement différentes. Et nous allons faire le tour des députés européens qui sont défavorables à la signature de cet accord pour bien montrer que pour la viande bovine, pour l'éthanol, pour la viande de volaille, 120 000 tonnes de volaille en plus, c'est à coup sûr l'effondrement des cours pour les producteurs français et européens.
Est-ce qu'il y a, Madame Lambert, des producteurs qui s'y retrouvent tout de même ? Je pense par exemple aux producteurs de lait qui vont pouvoir écouler leur lait en Amérique du Sud plus facilement ?
Pour l'instant, il n'y a pas de garantie. D'abord, ça ne sera pas du lait parce qu'on n'exporte pas du lait. Ça serait éventuellement des fromages ou des produits laitiers transformés. Mais si, d'un côté, vous vendez du vin et du champagne et des spiritueux, c'est bien pour ce secteur. Par contre, qu'est-ce que ça règle pour les producteurs de viande, d'éthanol et de volaille ? Donc, je crois qu'il ne faut pas raisonner ainsi. C'est bon pour la France, pour l'industrie française. Mais qu'est-ce que ça met dans la poche des agriculteurs ? Rien du tout. Donc, l'agriculture est la monnaie d'échange. Et nous avons été lâchés par les plus hauts dirigeants.
Et on a bien noté le rendez-vous demain, 8h30, avec le ministre de l'Agriculture. Autre grand sujet du moment, l'épisode de canicule qui n'est pas fini. Quelle remontée, quel bilan de votre côté ?
C'est le secteur de la viticulture qui a été fortement éprouvé, avec des vignes qui sont totalement calcinées, à la fois les raisins, le feuillage et la totalité. Il y a une cellule de crise qui s'est tenue ce matin dans l'Hérault. Beaucoup de départements sont touchés et parfois avec des pertes à 80%. C'est aussi beaucoup de mortalité dans les élevages de porcs et de volailles. Et c'est pour bon nombre de cultures, même le blé dur dans le sud de la France, des cultures qui sont totalement grillées. Donc il y aura moins de rendement, c'est certain, et puis des mortalités.
Il y aura des récoltes plus précoces, récoltes de blé par exemple, là, dans les semaines à venir ?
Il y a déjà des récoltes d'orge qui sont très précoces, il y a des récoltes de blé qui avancent à vitesse grand V. Par contre, le rendement, oui, va être affecté parce que les grains se rétrécissent et vont être rabougris.
Christiane Lambert, quand l'OCDE suggère de réorienter au fil du temps les subventions vers les activités qui préservent le climat, est-ce que les agriculteurs vont pas être obligés de passer à cette logique-là, c'est-à-dire toucher des subventions en fonction aussi de l'impact de leur activité sur le climat ?
Nous avons déjà fait beaucoup d'efforts, mais il y a aussi des efforts à faire de tous les côtés. Lorsqu'on voit qu'on stocke 1% de l'eau de pluie qui tombe dans notre pays, alors que l'Espagne en stocke 21%, d'autres pays ont anticipé le changement climatique. Et le comble, c'est que cette année, on va aller acheter de la paille en Espagne. Donc ils arrosent, ils produisent du blé et de la paille, et nous ne pouvons pas arroser autant, et nous allons acheter leur paille. Donc nous achetons l'eau d'Espagne.
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole français, entretien enregistré en milieu de matinée. Les conséquences de la canicule chez nos voisins italiens. Les achats de fruits et légumes ont bondi de 20% la semaine dernière en Italie. Bonjour Mathilde Deimi.
Bonjour Bruno.
Il y a une semaine tout juste, les premières alertes canicule étaient lancées. On rappelle que 14 départements dans le sud-est restent en alerte orange et gare aux orages, nous disait Jean-Pierre Hameau tout à l'heure. Alors on redoutait cet épisode de canicule, on pensait aux 15 000 morts de 2003. Quel bilan, que peut-on dire une semaine après de ces jours de chaleur ?
Alors il est bien sûr trop tôt pour tirer un bilan sanitaire définitif, il faut attendre la fin du mois car les effets de la canicule sur nos organismes se font encore sentir une fois la chaleur passée. La Direction Générale de la Santé ne note pas pour l'instant de surmortalité massive, rien de similaire à 2003 donc, et heureusement soulignent les urgentistes toujours mobilisés vu la crise actuelle dans les hôpitaux. Les consignes de prévention ont donc plutôt été respectées, suivies des personnes âgées ou des SDF dans les villes, annulation d'épreuves sportives, adaptation des horaires de travail pour certains, mais des morts sont déjà à déplorer. 2 ouvriers sur des chantiers, 3 cyclistes ou joggeurs en plein effort, au moins 5 personnes noyées ce week-end ou victimes d'hydrocution. Ce qui est nouveau, Bruno, dans cet épisode caniculaire, c'est la demande croissante de réflexion sur du long terme par un certain nombre de personnes pour faire baisser les températures en matière d'architecture et d'urbanisme, par exemple, dans les villes, mais aussi pour adapter les horaires des élèves. Le brevet, par exemple, a été décalé, ou encore isoler des bâtiments scolaires peu adaptés, car tout le monde sait qu'il y aura d'autres canicules. La chaleur se retire donc tout doucement en France. La pollution du quotidien, elle, reste. La circulation différenciée est prolongée à Lyon, Villeurbanne, Marseille et Annecy.
Merci Mathilde Dehimy. Et parmi les conséquences de cette canicule, le brevet des collèges reporté de quelques jours. L'épreuve de français a ouvert ce matin, la session 2019 du brevet. Alors était-elle difficile ou pas cette épreuve? Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Sonia, vous avez pris le pouls de certains candidats, collège de la Grange-Aubel dans le 10e arrondissement de Paris.
Oui, et dans ce collège, il n'y avait pas d'absents pour cause de report du brevet. Une seule élève était malade, mais rien à voir avec un départ en vacances. Les élèves sont ressortis de leur première épreuve avec le sourire. Le brevet, c'est facile, selon Basile et Raphaël, très tranquille.
Je stresse pas souvent, donc là non plus. Et puis, il n'y a pas un énorme enjeu avec le brevet, puisqu'on passe déjà au lycée, on est déjà pris dans les lycées. De toute façon, c'est un entraînement aux examens, quoi. C'est un premier examen.
Pas de pression, c'est un examen, c'est rien, quoi. C'est comme si j'allais acheter une baguette. Il faut se dire comme ça, sinon on va pas réussir.
Pourtant, certains candidats étaient inquiets ce matin quand on les a rencontrés un peu avant 9h devant les grilles du collège, comme Aimeré.
J'ai paniqué pour rien en fait. On pouvait comprendre facilement les énoncés.
Et la dictée alors, il y avait des mots difficiles ou pas?
Non, parce que les mots difficiles étaient écrits sur le tableau. Il y avait juste un seul mot difficile écrit sur le tableau, c'est tout. C'était pas super difficile.
C'était le mot glycine. Une autre partie de l'épreuve était plus difficile pour Ariane.
C'est la grammaire, je suis pas forte en grammaire du tout. Donc c'était les Attends, comment ça s'appelle ça, les trucs, les conjonctions? Non, attends.
Complément d'objet? Non.
Complément d'objet d'un truc, et après c'était
fallait remplacer par un pronom le complément d'objet d'un mot.
Visiblement, Ariane et sa copine Camille ne sont pas tout à fait au point. Elles vont pouvoir se rattraper sur l'épreuve de mathématiques tout à l'heure à 14h30.
Merci Sonia Princey. Demain, l'histoire géographie, le matin et les sciences, l'après-midi, les résultats, c'est au plus tard le 11 juillet. Le 115, le SAMU social, doit-il donner au gouvernement les noms des demandeurs d'asile et réfugiés qui font appel à lui? Le gouvernement veut systématiser cette transmission des informations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est un projet pour l'instant, chaque mois. Le SAMU social donnerait les noms des demandeurs d'asile et réfugiés présents dans son réseau d'hébergement. Les associations redoutent des dérives, on entend cela dans un instant. D'abord la parole de l'Office de l'immigration et de l'intégration via son président Didier Lesky. Le seul objectif, dit-il, est de mieux accueillir les réfugiés et demandeurs d'asile.
Est-ce qu'on se rend compte quand même que on a des hôtels où s'entassent des gens dans des conditions indignes pendant plusieurs années, et nous disons, ceux qui sont réfugiés, qui ont une carte de 10 ans, il faut les accompagner vers du logement pérenne parce que leur vocation n'est pas rester dans des formules 1 borgnes, hein, et les demandeurs d'asile, leur vocation n'est pas de rester dans ce type de choses, mais de rejoindre le dispositif national d'accueil. Mais si on n'a pas à les connaître, comment voulez-vous qu'on prenne en charge, tant sur le plan social que sur le plan juridique, ces personnes? Ça me paraît une drôle de conception des choses.
Voilà pour la colère de Didier Lesky. Écoutez la réponse de Florent Guéguin, de la Fédération des acteurs de la solidarité. D'accord, évidemment, pour mieux accueillir les demandeurs d'asile et réfugiés, mais la réponse donnée n'est pas la bonne. Il y a un risque de remettre en cause l'accueil inconditionnel au 115.
Toute personne à la rue, en situation de détresse, a droit à un hébergement. Et la loi ne prévoit pas qu'on contrôle la nationalité ou la situation administrative de la personne. C'est un droit fondamental. Un certain nombre de personnes vont préférer rester dehors plutôt que de rentrer dans des centres d'accueil avec le risque que leur situation administrative soit connue du ministère de l'Intérieur. C'est vraiment un projet dangereux. Nous, on va le contester devant la CNIL, devant le défenseur des droits et probablement aussi devant le juge administratif.
Voilà pour cette controverse que l'on continuera à suivre. Le taux de chômage dans la zone euro a atteint en mai son niveau le plus faible depuis juillet 2008, plus de 10 ans, 11 ans même, 7,5%, chiffre donné ce matin par l'Office européen des statistiques Eurostat. Présider la conférence des évêques de France, c'est un rôle beaucoup plus compliqué que naguère. Entre la crise des vocations, le débat sur la PMA qui s'annonce tendu, les affaires de pédophilie, on se la nomme entre les sujets plus que délicats. Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims prend ses fonctions aujourd'hui. Il succède à l'archevêque de Marseille, Georges Pontier. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Spécialiste des questions de religion à France Inter, avec Éric de Moulin-Beaufort, les évêques pensent avoir trouvé l'homme de la situation.
Et rien n'était gagné d'avance. Juste avant son élection à Lourdes, certains glissaient en coulisses leur espoir de le voir, lui, Éric de Moulin-Beaufort, plus qu'un autre, devenir président de la Conférence des évêques de France. Parce que jeune, 57 ans, incarnation du renouveau d'une institution, parce que force de travail colossale, parce que brillant, commentent ceux qui l'ont côtoyé au diocèse de Paris ces dernières années, parce que très conscient aussi des difficultés. Sur la pédophilie au sein de l'Église, par exemple, on a senti la confiance des chrétiens les plus fidèles être ébranlée, et non sans motif, il faut bien le reconnaître, disait-il récemment sur France Inter. Le problème n'est pas marginal, mais systémique. Arrivera-t-il à faire aboutir l'idée, par exemple, d'une indemnisation pour les victimes? Apaisera-t-il les relations avec les associations, comme la Parole libérée? Le chemin est long et ses pouvoirs, en fait, limités, car être président de la Conférence des évêques de France ne veut pas dire être chef de l'Église en France. Chaque évêque reste maître en ses terres sous l'autorité du pape.
La procédure de référendum sur la privatisation d'ADP, Aéroport de Paris, a déjà recueilli près de 500 000 signatures, 480 300 précisément. Le comptage est publié par le Conseil constitutionnel. Cela veut dire que plus de 10% des signatures nécessaires à la poursuite du processus ont été recueillies. Les promoteurs du référendum ont jusqu'au mois de mars prochain pour rassembler quelques 4 800 000 signatures. En Syrie, 6 civils et 9 combattants pro-régime ont péri lors de frappes israéliennes hier en Syrie. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combattants ont été tués lors de raids près de Damas. Le dessinateur à l'humour noir, dessinateur argentin Guillermo Mordillo vient de mourir. Il avait 86 ans, ses personnages et animaux avaient toujours un gros nez. Humour noir, il le définissait lui-même comme cela, c'est la tendresse de la peur. Écoutez l'hommage chez son éditeur français Glénat, qui édite donc ses ouvrages.
Il faisait vivre ses personnages dans un monde un peu loufoque, toujours un peu dans les nuages, dans les étoiles, dans la lune. Des gags, des illustrations, il a commencé dans Pif en France et il a sorti chez Glénat près de 15 albums, surtout sur des thèmes qu'il affectionnait comme le football, le golf. Son petit personnage était souvent perdu dans les grandes villes, perdu dans les immensités. Un petit personnage tout simple avec un gros nez et trois poils sur le caillou, qui était peut-être un peu lui-même d'ailleurs, probablement. Et il a surtout apporté une technique nouvelle dans la couleur, puisqu'il a été l'un des premiers à utiliser un instrument qu'on appelle l'aérographe, qui permet de projeter l'encre et d'obtenir des dégradés extraordinaires. Il faisait des ciels bleus du coucher de soleil qui étaient magnifiques. Voilà, c'était un homme très gentil, très sympathique et on est très triste de sa disparition.
L'éditeur Jacques Glénat avec Corinne Pellissier. Mordillo avait travaillé pour lui, pour Paris Match, pour Marie-Claire ou encore pour Pif Gadget. L'actualité du sport est le troisième tournoi du Grand Chelem qui a commencé il y a une vingtaine de minutes. En principe, Wimbledon, bonjour Jean-Pierre Blimeau.
Bonjour Bruno.
Ça commence avec le tenant du titre Novak Djokovic sur le court central. C'est la tradition, on en dira un mot tout à l'heure. D'abord un choc des générations, c'est un des matchs du jour entre deux Américaines dans le tableau féminin. Venus Williams et Cori Gauff, 23 ans les séparent, c'est cela Jean-Pierre?
Et oui, lorsque Cori Gauff voit le jour en 2004, Venus Williams est déjà une grande joueuse. L'aînée des sœurs Williams a déjà 23 ans, elle a passé 11 semaines à la première place du classement mondial. Elle a raflé une médaille d'or olympique et gagné déjà 4 tournois du Grand Chelem. Alors au total, Venus Williams en a gagné 7, alors que sa très jeune adversaire fera tout juste ses premiers pas tout à l'heure dans un tournoi de ce niveau. L'an dernier, elle avait remporté le tournoi junior de Roland-Garros. À un peu plus de 14 ans, seuls Martina Hingis, Jennifer Capriati ou encore Gabriela Sabatini avaient été plus précoces. Découverte à 10 ans par Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams, la jeune joueuse a grandi en Floride dans un environnement très sportif. Entre une mère athlète et son père basketteur, dans la culture de la gagne à l'américaine, cornaquée par son papa omniprésent, mais qui a eu l'intelligence de ne pas entraîner seule sa protégée. C'est un Français, hein, Jean-Christophe Forel, qui la dirige désormais depuis avril, invité par l'organisation. Cori Gauff a gagné ses 3 matchs de qualification en 2-7 et s'apprête donc à disputer un vrai choc des générations, vous l'avez compris. Elle, qui a 15 ans, est une ado et qui doit encore faire ses devoirs par correspondance, même ici à Wimbledon, face à la doyenne Venus Williams, 39 ans, devant près de 12 000 spectateurs sur un grand court, le numéro 1.
Et à propos de numéro 1, Novak Djokovic, pas encore en piste, c'est lui qui doit ouvrir le tournoi, c'est face à l'Allemand Kohlschreiber, hein.
effectivement 13h heure anglaise sur le court central. Voilà. C'est une tradition, le tenant du titre est le premier à fouler ce gazon qui est le meilleur du monde. Évidemment, ce sera sur le central et donc face à Cole Schreiber, l'Allemand, qui tout de même a réussi un quart de finale ici à Wimbledon. Entrée en matière compliquée pour l'un des trois grands du tennis, Djokovic. On attend demain Nadal et surtout Federer.
Voilà, c'est le seul du top 3 aujourd'hui sur le court Djokovic. Et 8 Français aujourd'hui sur les courts. On verra notamment si Gaël Monfils peut jouer cheville fragile. C'est mon actu chaque lundi dans ce journal de 13h. Votre actualité à vous est souvent une actualité décalée. Ce matin, celle de Christophe Riffaut. Il habite le Dora. C'est une petite commune dans le nord du Limousin. Et il va réaliser son rêve cette semaine, Christophe Riffaut. Organiser dans son village, 1800 âmes, le championnat du monde de tonte de mouton. C'est très sérieux. Le mondial de la tonte de mouton, ça nous arrive de Nouvelle-Zélande. Christophe, lui, est éleveur de moutons. Il a déjà des records de tonte. Il s'est battu comme un fou pour exporter, pour amener cette compétition chez nous. Eh bien, du coup, en ce début juillet, plus de 50 000 visiteurs. C'est à partir du 4 juillet, à partir de jeudi. Plus de 50 000 visiteurs vont venir au Dora pour assister à ce mondial. Au fait, comment ça se passe, la tonte d'un mouton? Christophe Riffaut raconte à Sandrine Houdin.
Là, je le tiens, donc entre les jambes, il est posé sur sa cuisse, parce que si on le pose sur le coccyx, à un moment, il va bouger, est-ce que ça va lui faire mal? Ouais. Donc s'il est sur la cuisse, du coup, là, il est très bien.
Une jambe derrière, une jambe devant.
Voilà, il ne faut pas que les pattes touchent quoi que ce soit.
Alors que là, il est bien, on dirait, ouais. Quasiment sur un transat.
Là, il n'est pas stressé, hein. Là, il n'y a aucun souci. Hein.
Démonstration, alors.
Voilà, donc on commence par le ventre. Hein. Je tourne avec l'animal. La cuisse, le premier gigot. Chaque geste, il est précis. On pourrait tondre les yeux bandés quoi au bout de. Enfin, avec des années d'expérience. Voilà, là maintenant je fais l'épaule, donc vous avez vu. Hein.
Ah ouais. Alors, là vous êtes essoufflé, vous n'avez même pas fini.
Ouais, c'est surtout que parler en même temps que je tonds.
Mais sinon, mine de rien, c'est sportif.
Ouais, c'est très sportif. Pour ma part, par exemple, 2-3 ans dans une salle de sport pour muscler les muscles importants.
Ça pèse combien un mouton?
Alors des agneaux, bon ça va être 35-40 kilos. Après des brebis, c'est 70, 80, voire plus. Puis après, on est tout le temps penché quand même.
Et vous êtes jugé sur quoi?
Donc sur la rapidité,
évidemment,
qui représente environ 40% de la note finale.
C'est-à-dire, vous avez un top départ, comment ça se passe?
Oui, il y a un top départ. Et après, le temps, il s'arrête quand le tondeur, il appuie sur le bouton pour stopper le chrono.
Donc ça compte pour 40%.
Et ensuite, il y a la qualité. Les juges, y tournent. Si on coupe la laine en une seule fois, il n'y a pas de pénalité. Si on la coupe en deux fois, par exemple, s'il reste une petite mèche de laine, là, ça fait des pénalités. Après, il y a un autre jugement qui est derrière. Donc, quand l'animal est fini, qu'il soit, on va dire, beau, quoi. Du coup, la qualité, ça représente 60% de la note.
Votre record?
Sur agneau, hein, en vitesse, c'était 21 secondes.
Pour un agneau?
Pour un agneau.
Et le meilleur?
Le meilleur au monde, c'était 14 secondes. Oui, encore du travail.
Vous avez forcément des détracteurs, non? Qui vous trouvent ça ridicule ou...
Bien sûr, comme dans tout. Après, si on l'explique, après, ils peuvent comprendre. De toute façon, l'animal, c'est obligatoire, il faut le tondre. Donc, si on le fait rapidement, le stress est plus court. C'est encore mieux pour l'animal, quoi.
Vous parlez de l'animal, alors l'animal, justement, pas de mal?
Non, parce que si on force l'animal, du coup, si on lui fait mal, lui, il va bouger.
Il y a tout de même, je présume, des personnes qui se marrent quand vous leur dites « je prépare le mondial de tonte de mouton », non?
Non, bah, ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr que les gens, ils rigolent, mais il va bien y avoir ce championnat du monde. Hein. 4 au 7 juillet, 50 000 personnes attendues.
Vous le dites avec plein d'émotion.
Oui, parce qu'il a fait le monter, tout ça. Et je sais ce que ça peut donner derrière, donc c'est quand même fou.
Vous êtes un peu timbré quelque part aussi. Non?
Bah ça, il faut être un peu timbré pour en arriver là, ouais. Ça, je vous le confirme.
Le Dora, lieu de ce championnat du monde de tonte de mouton à partir de jeudi dans le nord du Limousin. Et Christophe Riffaut au micro de Sandrine Houdin. On parlait tout à l'heure avec Christiane Lambert de la FNSEA des conséquences de la canicule pour les agriculteurs. À l'instant, cette annonce du ministère de l'Agriculture, les éleveurs de 24 départements vont être autorisés à faucher ou faire pâturer leurs terres en jachère. La sécheresse réduit le volume d'herbe disponible pour nourrir les animaux. Voilà cette annonce supplémentaire du ministère de l'Agriculture.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Jean-Pierre Hameau.
La chaleur fait de la résistance entre la région Rhône-Alpes et le Sud. D'ailleurs, Météo France maintient 13 départements en vigilance orange canicule avec des maximales comprises entre 31 et 38 degrés. Comptez 31 à Nice, 34 à Marseille, 35 à Grenoble, 36 à Nîmes et Lyon, 38 à Montélimar. Dans les autres régions, prévoyez 23 à 30 degrés avec 23 à Rouen, 25 à Lille. Prévoyez 26 dans la capitale comme à La Rochelle, 28 à Metz et Bordeaux, 29 à Limoges et 30 à Toulouse. En revanche, ne prévoyez pas plus de 19 à Brest et 20 à Cherbourg. Et puis, côté ciel, une évolution orageuse se dessine cet après-midi du Massif central à la région Rhône-Alpes et de la Bourgogne-Franche-Comté au sud de l'Alsace. Ces orages seront localement forts et en particulier vers le centre-est. Le ciel sera nuageux dans le sud-ouest et partout ailleurs, votre après-midi sera plutôt bien ensoleillé.